La marche du monde.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Bakna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tifelfel, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi, dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et c'est ainsi que les actualités françaises relatent les premiers attentats perpétrés en Algérie par le FLN sans jamais le citer. Vous l'avez entendu, on parle de fellaga et de complot de certaines ligues musulmanes. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, est d'ailleurs dépêché sur place et déclare « Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme un état de guerre, mais nous châtierons de manière implacable les hors-la-loi ». Les hors-la-loi, les fellagas, les rebelles, les 17e rendez-vous de l'histoire leur font la part belle, non pas pour les sanctifier, mais pour rappeler leur courage et questionner le sens de leur insoumission. RFI est donc à Blois au rendez-vous de l'histoire, très exactement au Café Fluxus, pour cet enregistrement en public de la Marche du Monde, avec notre invité Raphaël Branche, que je suis très heureuse de recevoir. Bonjour,
bonjour.
Raphaël Branche. Je rappelle que vous êtes historienne et professeure d'histoire à l'université de Rouen, spécialiste bien sûr de la guerre d'Algérie. Alors tiens, justement, pour vous, quels seraient les plus rebelles dans cette guerre d'Algérie que vous ne cessez d'explorer ?
Oh, quelle question terrible. J'ai jamais raisonné comme ça en réalité, c'est-à-dire que moi ce que j'étudie c'est vraiment la guerre, c'est l'opposition militaire en essayant de la comprendre dans sa dimension politique. Rebelle, pas rebelle, je sais pas en fait qui serait le plus rebelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, ça ne peut être que ça. Hein, du point de vue des autorités françaises, ça ne peut être qu'une rébellion, c'est-à-dire quelque chose qui les provoque et qu'il faut écraser, qu'il faut cantonner. De fait, c'est d'ailleurs assez cantonné. D'ailleurs, dans ce qu'on a entendu comme extrait, ça ne parle que du massif de l'Aurès, dans l'est de l'Algérie. Et à l'époque, on pouvait imaginer de manière tout à fait raisonnable qu'on arriverait à les écraser.
Alors, revenons, si vous voulez bien, à ce 1er novembre 54, cette Toussaint rouge. Comment l'événement est-il vécu en Algérie par les populations européennes et musulmanes ? Ce sont les mots de l'époque.
Alors ce qu'on en sait, c'est-à-dire c'est pas grand-chose du côté des populations indigènes, des populations algériennes, des populations autochtones, pour plein de raisons, mais qui ont à voir avec ce que c'est que la colonisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès en réalité à la plus grande partie de la population qui vit dans des endroits ruraux éloignés. Donc il est difficile de dire quel a été l'impact immédiat du 1er novembre 54. Ce qui est sûr, c'est que au fur et à mesure des mois, des semaines, comme les Français n'arrivent pas à écraser la répression, alors oui, là, on commence à s'intéresser à ce qui se passe et les gens commencent à guetter les informations. Côté européen, en revanche, il y a les récits des meurtres qui sont accomplis contre, là, par exemple, dans l'extrait qu'on a entendu, un instituteur. C'est essentiellement, en l'occurrence, des militaires qui sont visés. Et donc, ça fait partie d'un climat d'insécurité qui s'installe, mais qui reste cantonné à certaines zones. Ce qui fait que il faut bien comprendre que quand on parle de la guerre d'Algérie ou de l'Algérie, en réalité, ce ne sont que certains espaces qui sont concernés. Et c'est aussi pour cette raison que les gens ont pu avoir l'impression, notamment dans l'ouest de l'Algérie, dans l'Oranie, pendant plusieurs années, que la guerre ne les concernait pas.
Alors effectivement, la Toussaint Rouge, c'est une trentaine d'attentats, 10 victimes européennes. C'est un passage très pensé, très organisé à, oui, à la lutte armée. Est-ce que pour le FLN, c'est un moment fondateur ?
Ah ben c'est au sens propre un moment fondateur, puisque l'acte de naissance du FLN, ce sont les tracts déposés sur le lieu de certains de ces attentats. Mais effectivement, là, si on veut revenir un petit peu en arrière et comprendre ce qui se passe ce jour-là, c'est un passage à l'acte. C'est-à-dire que le FLN n'existe pas, il naît dans cette décision de prendre les armes contre la France. Depuis des décennies, en tout cas depuis des années, la question se pose dans les milieux indépendantistes en Algérie, donc ceux qui souhaitent l'indépendance de l'Algérie, des moyens. Et la question du passage à la lutte armée est discutée très précisément depuis une dizaine d'années. Donc là, on a bien quelque chose qui est une rupture, qui est donc ce passage à l'acte, cette décision de jouer le tout pour le tout, alors qu'on n'a pas d'armes, alors qu'on n'a pas tellement de troupes, et alors que les chances sont quand même extrêmement faibles. Cette décision est prise peu de temps auparavant. Et donc là, effectivement, il y a l'acte de naissance du Front de Libération Nationale, qui est donc un petit noyau de gens issus du précédent parti nationaliste, le PPA-MTLD.
Raphaël Branche, donc ce 1er novembre 54, acte fondateur pour le FLN, et puis FLN quand même, qui se réclame en quelque sorte du droit international, parce que depuis 45, avec la Charte des Nations Unies, tout peuple a droit à disposer de lui-même et donc a droit à l'autodétermination. Est-ce que c'est un moteur également ?
C'est un argument. Je ne suis pas sûre que ce soit un moteur. Le moteur, c'est l'idée que le peuple algérien, la nation algérienne existe. Parce que pour qu'on puisse parler d'un droit du peuple à l'autodétermination, il faut reconnaître que le peuple algérien existe. Et ça faisait partie des débats, puisque la France niait l'existence même du peuple algérien. Donc on a plutôt débattu et argumenté sur ça, plutôt que sur un principe de droit.
Alors effectivement, cet esprit d'indépendance avait frappé les Algériens peut-être dès 1945, hein, suite aux répressions dans le nord constantinois, en particulier à Sétif, Guelma, Kerata. Écoutez le témoignage de Smaïne et de Baïa, je les ai rencontrés à Alger. Ils sont à peine adolescents à l'époque et avec leurs camarades d'école, suite à cette répression de Sétif, ils se posent les premières questions.
Les discussions, c'était évidemment, on se disait, comment on nous apprend que nos ancêtres étaient les Gaulois ? Question que tout le monde se posait. Certains qui étaient plus âgés que nous, nous ont dit, il y a un responsable politique, un nationaliste, qui dans un discours a pris de la terre, et il a dit, cette terre est la nôtre. Donc, on s'est dit, c'est peut-être ça le problème de la colonisation. C'était M. Salih Al-Hajj.
J'ai créé l'étoile nord-africaine et tous les autres mouvements pour arriver au mouvement nationaliste algérien d'aujourd'hui. Dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais désespéré d'arriver un jour ou l'autre à trouver une solution digne pour le peuple français et pour le peuple algérien.
Les discours, c'était des discours, je dirais, éducatifs et qui renforçaient la personnalité algérienne. Par exemple, c'était l'association des oulémas avec Cheikh Bachir Brahimi. Il y avait la tendance de Farhat Abbas. Il y avait la tendance du PPA avec Salih Al-Hajj et tout l'état-major, disons.
Et comment leurs paroles arrivaient jusqu'à vous ?
La formation arrivait par oui dire, ce qu'on appelle maintenant le téléphone arabe, entre parenthèses.
Et vous, Baïa ?
Je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais enfin, cette notion d'un peuple qui commençait à bouger, on l'a ressenti quand même très tôt. Il y avait ces chants patriotiques qui étaient un petit peu... Bon, à l'origine, c'était les scouts musulmans qui chantaient, disons, on entendait les enfants chanter ces chants, qui appelaient à l'indépendance de l'Algérie.
Bye.
Le parti du peuple algérien de Messali Hadj, l'Union démocratique du manifeste algérien de Ferhat Abbas, l'association des oulémas de Mohamed Bachir al-Ibrahimi sont autant de composantes du mouvement nationaliste algérien, sans oublier le parti communiste algérien, même s'il a été le dernier à se rallier à l'idée d'indépendance. Écoutez le témoignage de Mohamed Reba. Il était au Festival mondial de la jeunesse à Bucarest en 1953.
Au festival, évidemment, vous aviez toute la jeunesse du monde au Festival mondial de la jeunesse. Et nous avions défilé sous la bannière « La jeunesse veut l'indépendance, vive l'indépendance algérienne ». Et nous avions défilé comme une délégation d'une nation. Nous n'étions pas dans la délégation française. Et nous représentions les étudiants et les lycéens de l'Algérie. Pour ces pays, nous étions une nation, bien que administrativement, encore sous le régime colonial. Voilà.
Mohamed Reba, cette expérience donc internationale de la jeunesse communiste à Bucarest, est-ce qu'elle vous a changé? Et dans quel état d'esprit vous êtes revenu ici à Alger?
Déjà, mes copains, quand ils m'ont vu, j'ai pris une autre dimension, transformée, très ouvert. J'ai vu des jeunes du monde entier et deux délégations m'ont impressionné, la délégation française, et c'était l'amitié. D'abord il y avait la langue, vraiment la grande amitié, et j'insiste sur ça, et aussi la délégation des Vietnamiens qui étaient en guerre à l'époque avec la France, et donc là ils m'ont impressionné parce que j'ai vu les premiers maquisards. C'était des jeunes qui venaient du maquis et du Vietnam. Et évidemment, le mot « indépendance » revenait dans nos discussions. Et chez moi, ça prenait de la substance. Indépendance, je voyais des gens qui luttaient pour l'indépendance, des maquisards. Et c'était des étudiants aussi qui avaient abandonné leurs études pour aller combattre au maquis. Et ils étaient simples, modestes, d'abord physiquement, pas très fort, mais d'un courage extraordinaire. J'ai eu la chance de les voir.
La voix de Mohamed Reba, Alger, dans la marche du monde. Nous sommes au 17e rendez-vous de l'Histoire de Blois avec le public du Café Fluxus, venu écouter notre invité, Raphaël Branche, avec laquelle nous revenons sur les origines de la guerre d'Algérie et sur le FLN. Alors Raphaël Branche, ces différents témoignages appellent évidemment plusieurs questions. Et tout d'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi les fondateurs du FLN quittent le parti de Messali Hadj.
Alors ça a à voir avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une divergence sur la stratégie à adopter. Tous ces gens-là sont indépendantistes, tous ces gens-là sont persuadés que la nation algérienne existe depuis bien longtemps. Donc il n'y a pas de discussion sur l'analyse. Hein, le colonialisme c'est mal, il faut s'en débarrasser. Mais il y a une divergence sur la stratégie à adopter et sur, en l'occurrence, les moyens de la lutte. Donc le parti de Messali a, disons, le parti de Messali post-1945 a opté pour une stratégie plutôt légaliste, de prendre le pouvoir par les urnes, ou en tout cas d'exister par les urnes au moins autant que de préparer la lutte armée. Donc il y a un petit groupe clandestin qui se met à préparer la lutte armée qui appartient au parti de Messali, mais officiellement le parti de Messali reste dans la légalité. Et puis en fait ce petit groupe clandestin qui s'appelle l'organisation spéciale, qui va se former à partir des années 48, mais qui va être démantelé par l'armée française en 50, c'est dans ce petit noyau qu'on va aussi retrouver ceux qui plus tard vont former le FLN. Donc on a des gens qui en fait depuis la répression du Nord Constantinois en 45 notamment, ont fait l'analyse que la seule manière d'arracher l'indépendance, ça sera précisément de la prendre les armes à la main et de pas attendre qu'on nous la donne. Donc ils vont se séparer du MTLD PPA et fonder le FLN sur cette base-là. Donc ils vont se séparer du MTLD sur cette base-là et sur une autre base aussi, qui est le culte du chef. Ils reprochent à Messali d'être Messali, c'est-à-dire d'être une personne extrêmement charismatique qui a fédéré sur son nom les espoirs d'une partie du peuple algérien. Il faut se souvenir que Messali, qui a beaucoup marqué notamment les immigrés algériens en France, était vraiment une personne hors du commun pour un certain nombre de militants qui avaient sa photo, qui le vénéraient. Et donc tout ça a été dénoncé comme étant du culte de la personnalité. Bon, il faut voir aussi 1953, c'est la mort de Staline. Enfin, dans une ambiance aussi, on remet en question ce genre de choses, on les discute en tout cas. Et donc, le FLN ne sera toujours qu'un parti dirigé par un collectif.
Et c'est aussi la période où le colonialisme, justement, est battu en brèche, puisqu'il y a cette première victoire au Vietnam. Il y a Dien Bien Phu le 7 mai 54. Alors, quel impact a cette victoire sur ce petit noyau, justement? De quelle façon ils sont influencés par ce qui se passe au Vietnam?
Alors là, c'est difficile de voir des traces directes, même si on a des témoignages où on sait que ça a été une onde de choc incroyable. Dien Bien Phu, c'est voilà, la chute de l'Indochine française, la perte pour la France de cette partie de l'Empire, c'est absolument une victoire des peuples colonisés, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc on peut imaginer que ça a donné des arguments à ceux qui pesaient pour la lutte armée, tout en se rappelant que c'était bien des comparaisons qui étaient possibles purement verbales. Il y avait peu de choses en commun entre la situation de ceux qui ont pris les armes au Vietnam ou en Indochine et ceux qui les prendront en 54 en Algérie. Les Vietnamiens ou les Indochinois avaient sur le papier beaucoup plus de chances de gagner que n'avaient les Algériens en 54.
Est-ce que donc, en quelque sorte, pour conclure un petit peu sur les origines de cette guerre d'Algérie, vous pourriez dire avec Mohamed Harbi qu'au fond, cette guerre d'Algérie a commencé en 45 à Sétif?
Oui, on a tendance à effectivement, je peux me rallier à cette manière de voir la chronologie. On peut aussi considérer qu'elle a commencé en 1830. Enfin bon, c'est compliqué. Ou en 1871. Enfin bon, il y a plein de manières de redécouper la chronologie. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est important dans cette proposition de Mohamed Harbi, je crois, c'est pas tant de mettre l'accent sur la répression de Sétif et Galma, ou Kerata, du Nord Constantinois. Ce qui est important, c'est que ça nous décale la chronologie vers l'amont, vers le colonial. Et ça évite de penser la guerre comme étant, pour les Français en tout cas, une guerre après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, après il y aurait eu la guerre d'Algérie. Mais non, c'est pas du tout la même nature de guerre. Là, on est dans une guerre qui clôt un cycle de colonisation. Et cette spécificité-là, elle a des impacts dans toutes les dimensions de la guerre, dans la manière dont les gens s'y engagent ou ne s'y engagent pas. Donc, elle a cet intérêt, ce déplacement de la chronologie a cet intérêt de nous rappeler qu'il s'agit d'une guerre dans un contexte colonial.
Et d'ailleurs, les Algériens l'appellent bien la guerre d'indépendance.
Pour eux, il n'y a aucun doute, oui.
Écoutez la marche du monde sur RFI. Nous sommes à Blois, au 17e rencontre de l'histoire. Le thème cette année, c'est les rebelles, et nous intéressons aux rebelles algériens avec notre invitée historienne Raphaël Branche, accueillie au café Fluxus. On se retrouve avec les rebelles d'Algérie juste après les infos sur RFI.
Marche du monde, Valérie Nivelon.
Le peuple algérien résiste victorieusement à l'une des plus sanglantes guerres de reconquête coloniale. Parce que le Front de Libération Nationale et l'Armée de Libération Nationale poursuivent et poursuivront, s'il en était nécessaire, le combat libérateur.
La voix de Ferhat Abbas dans La Marche du Monde, la principale figure du mouvement nationaliste en Algérie jusqu'au début des années 50. Dans son manifeste du peuple algérien, il dénonce la politique coloniale française de ségrégation. Mais Ferhat Abbas ne rejette pas pour autant l'idée d'une Algérie française fédérée à la métropole. D'ailleurs, son parti préconise l'assimilation, l'égalité et la transformation de la colonie en province. Mais l'hostilité de la grande majorité des colons à toute négociation amène Ferhat Abbas à rejoindre les rangs du FLN en 1955. Il se rallie alors à l'action violente menée par le mouvement révolutionnaire.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La marche du monde est à Blois au 17e rendez-vous de l'histoire consacré aux rebelles. Nous enregistrons en public au café Fluxus avec notre invité professeur Raphaël Branche, dont le dernier livre raconte une histoire tout à fait inédite, celle des prisonniers du FLN. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, Raphaël Branche, comment vous pourriez définir au fond cette action violente du FLN à ses débuts? À quelle idéologie révolutionnaire se réfèrent ses membres fondateurs?
Ah, c'est une très bonne question. Je pense que c'est très compliqué d'y répondre. En fait, je pense qu'il se réfère à aucune idéologie à part le nationalisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... il faut revenir pour ça, pour répondre, pour comprendre ma question, je crois qu'il faut revenir à ce que vous avez dit sur Abbas avant, et même sur l'extrait qu'on a écouté avant, qui fait référence aux scouts musulmans et à l'école, avec ce témoin qui parle de nos ancêtres les Gaulois. En réalité, peu d'Algériens ont entendu nos ancêtres les Gaulois, pour la bonne et simple raison que peu d'Algériens sont allés à l'école. Donc en réalité, très peu de gens ont pu accéder à quelque chose comme un livre, et donc à une réflexion sur la nature de la révolution qu'on voulait. Enfin, pour en arriver là, à ce type de débat, il faut avoir une formation que très peu ont pu avoir, de par l'école française, et même globalement en Algérie. Donc on a une toute petite élite qui est formée, et à l'intérieur de cette élite, c'est-à-dire quand je dis élite, c'est des gens qui ont fait l'école primaire, à l'intérieur de cette élite, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui vont produire des textes et essayer d'articuler leurs idées avec des idéologies. Donc notamment, ils vont réfléchir à partir de l'exemple indo-chinois, ils vont réfléchir à partir de l'exemple irlandais. Mais donc je dirais, c'est plutôt ça, c'est plutôt d'aller chercher dans le passé des luttes qui ont réussi ou qui sont en train d'être en marche, plutôt que de se référer à des grands principes, à des grandes idéologies, en tout cas certainement pas un modèle bolchevique, par exemple. C'est pas contrairement à ce que les autorités françaises ont voulu faire croire dans un premier temps, le lien entre le FLN et le communisme international, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est ténu, et je pense même qu'il est plutôt inexistant.
Et par ailleurs, comment on pense cette articulation, si tant est qu'il y en ait une, entre FLN, Front de Libération Nationale, et ALN, Armée de Libération Nationale?
Alors oui, là il y en a une, c'est même plus que ça, c'est-à-dire que c'est le même mouvement qui se dit FLN-ALN. C'est-à-dire que les militants sont des combattants, les combattants sont des militants. Et là, on est vraiment dans une structure d'armée révolutionnaire. Il n'est pas question d'avoir des combattants qui soient des professionnels de la guerre, par exemple, ou qui soient des mercenaires. Il s'agit d'avoir des gens qui sont convaincus de la nécessité de la lutte et dont la tâche à un moment précis est de combattre, mais dont la tâche pourrait être à un autre moment de faire une autre action dans le cadre de cette guerre qui est une guerre globale, une guerre totale qui nécessite toutes sortes d'actions et essentiellement des actions de nature politique, c'est-à-dire de convaincre la population. Donc le FLN-ALN ont un lien consubstantiel, vraiment.
Et avec quand même cette volonté de terroriser.
Ah oui, j'ai pas répondu à cette question. Oui, bien sûr, sur ce qu'ils font sur le terrain, pour exister, ils optent d'emblée pour des actes de nature terroriste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de déclarer la guerre et puis de faire rentrer une armée quelque part, on sait pas trop où d'ailleurs, en Algérie. Ils mènent une guerre de guérilla. Donc qu'on peut décrire comme étant terroristes, c'est-à-dire qu'ils vont fondre sur des objectifs, soit sans défense, soit beaucoup plus faiblement armés qu'eux, pour les tuer ou les effrayer. Alors ces objectifs, ce sont soit des objectifs français, donc principalement des représentants de l'ordre colonial, des représentants de l'administration, des caïds, soit des militaires, ou alors des objectifs algériens, des gens qu'on veut faire basculer dans le camp du FLN ou dont on veut acheter le silence ou la complicité. Donc ces gens-là ne sont pas forcément tués, mais ils sont effrayés, terrorisés, éventuellement on les fait chanter. Enfin voilà, il y a toute cette panoplie d'actions possibles.
Alors tous les objectifs, toutes les thèses du FLN, il faut les communiquer en français, mais évidemment également en arabe, par des tracts, et bientôt par un journal, El Mujahid, dirigé par Frantz Fanon à partir de 1956, puis à partir de 1957 par Reda Malek. Écoutez son témoignage recueilli chez lui à Sidi Ferrus.
Vous savez, on essayait dans notre journal, El Mujahid, de reprendre les thèses du FLN en leur donnant une portée un peu plus didactique, plus pédagogique pour les jeunes, en approfondissant aussi certaines questions. Parce que une guerre qui dure 8 ans, pendant 8 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, les idées ne sont pas figées. Par exemple, au début, on disait l'indépendance seule issue possible. Et j'ai écrit cet article. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Mendès France, qui est pourtant un homme libéral et ouvert, avait déclaré que tout gouvernement français qui parlerait, n'est-ce pas, d'indépendance tomberait dans les 24 heures. Avant, M. Mitterrand, qui était ministre de la Justice et qui a dit « En Algérie, la seule négociation, c'est la guerre. » Alors, il fallait répondre à tout ce monde-là. Et il fallait ensuite répondre à Guy Mollet. Guy Mollet qui a dit que ça, c'est une lutte, ces gens-là, ces rebelles, reviennent au Moyen-Âge, ils veulent tout casser, ils veulent tout détruire, c'est des criminels, etc. On ne lui a pas répondu par de la polémique, en disant non, c'est pas vrai, monsieur Guy Mollet. J'ai écrit un article qui s'appelle Une révolution démocratique. Expliquer que monsieur Guy Mollet se trouvait en face d'une révolution et non pas d'une petite jacquerie épisodique comme il en a eu avant. Que là, c'était les masses algériennes qui commençaient à bouger.
Les mots de Reda Malek sur RFI, l'ancien porte-parole de la délégation algérienne aux accords d'Évian et ancien rédacteur en chef du journal clandestin El Mujahid, basé à l'époque à Tétouan, Tunisie, donc pendant la guerre d'Algérie. D'abord, je me demande si la version française et arabe de El Mujahid, c'est la même.
Alors, ça fait partie effectivement des premières choses qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs versions d'El Mujahid. Donc, effectivement, il y a déjà une version française, une version arabe, et il y a même plusieurs versions françaises. Donc c'est effectivement, moi j'ai pas fait l'étude, elle a été faite par d'autres qui montrent que ce ne sont pas les mêmes mots. Alors on peut aussi, donc ce ne sont pas les mêmes mots, ce ne sont pas les mêmes intonations, je dirais, qui sont les mêmes inflexions qui sont mises. Ça peut être les mêmes thèmes, mais en particulier en arabe, on va avoir un vocabulaire plus religieux. Ce qui est derrière ça, évidemment, sur cette différence ou cette interprétation dans la traduction, c'est évidemment la question du lectorat, du public. Et quand on écoute Reda Malek, moi, ça me fait sourire parce que il écrivait pour les jeunes. Mais non, il écrivait pas pour les jeunes. Alors, en revanche, oui, il écrivait peut-être pour Guy Mollet, Mitterrand, etc. Ils sont dans un travail d'explication, d'explicitation, de combat, bien sûr. Mais il faut voir ce que c'est que El Mujahid. C'est bien sûr un journal de propagande, essentiellement à destination de l'extérieur de l'Algérie, puisqu'il n'est pas fabriqué en Algérie, il est diffusé à l'extérieur, donc il va être lu, il est important. Hein, c'est vraiment un journal, par exemple pour les Français qui soutiennent le FLN, c'est un journal important. Mais voilà, c'est pas un journal de masse, et c'est ni un journal qu'on peut comparer au journal de la Résistance en France, à ces journaux qu'on pouvait distribuer comme ça, pour des raisons tout simplement pratiques, c'était pas possible. Dernière chose aussi, il y avait d'autres journaux que El Mujahid. Il y en a eu d'autres, des journaux de la Résistance qui, eux, ressembleraient plus aux journaux qu'on a connus dans la France occupée, qui étaient des journaux fabriqués localement par des gens et diffusés sous le manteau. C'était pas des journaux, en réalité, c'était une feuille qu'on diffusait comme ça. Et il ne s'appelait pas El Mujahid, il s'appelait autrement, il s'appelait Résistance, par exemple.
En ce qui concerne El Mujahid, dernière précision, est-ce que les articles de El Mujahid incitent à la violence ?
Les articles d'El Mujahid se félicitent de la réussite de la LN. Très régulièrement.
Alors, convaincre les masses algériennes de soutenir la révolution et les maquisards, c'est l'enjeu, bien sûr, du FLN. Et convaincre cette même population de ne pas le faire, c'est tout l'enjeu de l'armée française.
Dans cette Algérie, meurtrie et bouleversée, l'armée française a pour mission essentielle de rétablir l'ordre et l'harmonie entre les deux communautés, françaises et musulmanes. Son ennemi numéro un, c'est la peur. La peur que la rébellion fait peser sur ces montagnes et sur ces douars par le terrorisme le plus inhumain et le plus barbare. Les assassins font la loi. Les rues sont désertes. Chacun s'enferme. Un chef de village avait refusé de quitter son poste. Il a eu la gorge tranchée. C'est le premier temps de la subversion. Ensuite, un commissaire politique vient haranguer la population, débitant les mensonges fabriqués au Caire ou ailleurs, et procède à la mise en place d'une cellule terroriste comprenant une quinzaine d'individus, un chef de village, un collecteur d'impôts, un juge chargé de condamner et d'égorger ceux qui n'obéissent pas, et un certain nombre de guetteurs armés de fusils de chasse, dont la mission est de surveiller les allées et venues des uns et des autres, et surtout les mouvements des forces de l'ordre. Menacé dans sa vie et dans ses biens, le douar a peur. Il obéit au maître de l'heure.
Propagande contre propagande en Algérie, la guerre est également psychologique. Que pensez-vous de la vision du FLN présentée dans ce film donc, de l'armée française ?
Okay, il importe de rappeler la puissance de l'armée française. Là, on présente El Moudjahid d'un côté, un extrait d'actualité cinématographique de l'autre, produit par l'armée. Évidemment, les jeux ne sont pas égaux en matière de propagande. L'armée française domine tous les médias, il faut bien le dire, en Algérie et aussi en partie en France. Donc, ce que j'ai à en dire, c'est qu'en même temps, ils sont assez bien informés, c'est-à-dire qu'ils décrivent une réalité qui correspond à peu près, c'est-à-dire à l'articulation de la peur. Le FLN utilise la peur, on tue les gens qu'on a menacés auparavant de les tuer, donc on met à exécution ces menaces. Là, c'est le cas qui est raconté dans l'extrait. Et puis après, on a un travail aussi qui accompagne de conviction. Donc là, évidemment, c'est raconté de manière négative, mais le commissaire politique, c'est juste un militant qui arrive et qui va expliquer le pourquoi de la lutte, dénoncer le colonialisme et prendre des exemples dans la vie des gens pour essayer de les toucher et de leur expliquer la nécessité. Il n'y a pas d'angélisme, c'est-à-dire que c'est l'un et l'autre. Hein. C'est sous la menace des armes que les gens sont réunis pour écouter celui qui a à leur expliquer que le nouveau maître s'appelle maintenant FLN. Et puis le lendemain, l'armée française sera de nouveau là. Donc le petit extrait est assez intéressant pour ça. Il dit aussi que le FLN est une organisation structurée, ce qui est le cas. Il y a effectivement des fonctions et des tâches. Peut-être que l'armée française a un petit peu fantasmé son ennemi aussi comme étant particulièrement bien organisé, particulièrement bien structuré, sur un modèle pensé à partir du Vietnam et du Viet Minh. Il n'était pas forcément aussi bien organisé en Algérie toutefois.
Alors un FLN qui, contre toute attente, a fait des prisonniers, c'est ce que vous révélez dans votre dernier livre, Raphaël Branche, en prenant d'ailleurs, et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup de précautions à l'égard des familles concernées.
Oui, en fait, j'ai découvert qu'un certain nombre de Français ont aujourd'hui dans leur histoire familiale des gens qui ont disparu en Algérie et dont on n'a plus jamais retrouvé la trace, d'une part, mais aussi des gens dont on n'a jamais parlé. Donc cette histoire des prisonniers, c'était aussi rendre un petit peu de vie, de récit, je ne sais pas comment dire, à ces gens qui n'existent plus dans notre récit national de la guerre d'Algérie. Il y a d'autres disparus français qui existent, qui ont vraiment une existence, y compris au niveau politique. Ceux-là, non.
Alors, qui sont-ils, ceux-là, justement? Des civils, des militaires, des hommes, des femmes? Qui sont-ils?
Ils sont tous ça. Moi, j'ai commencé en me disant que j'allais travailler sur une guerre de guérilla qui faisait des prisonniers militaires, puisque je suis rentrée dans cette histoire après avoir travaillé sur une embuscade dans laquelle l'armée française était tombée.
À Palestro
et en Kabylie, oui. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure qu'il y avait autant de civils qui avaient été faits prisonniers. Et donc, ça m'a fait complètement changer mon regard sur ces prisonniers, qui sont à la fois des prisonniers d'une guérilla, mais qui sont des prisonniers d'une guérilla dans une guerre dont le principe est l'indépendance nationale de l'Algérie. Et c'est ce qui, à mon avis, explique l'importance de faire des prisonniers civils. C'est pas tant de faire des prisonniers civils ou militaires, ce qui comptait, c'était de faire des prisonniers français.
Alors vous donnez d'ailleurs l'exemple de frère Luc, hein, du monastère de Tibirine, assassiné hein, pendant la décennie noire hein, en 96, et vous expliquez qu'il avait déjà connu l'expérience d'une captivité aux mains de la FLN.
Oui, j'ai découvert que frère Luc avait été fait prisonnier en juillet 1959. En fait, le monastère de Notre-Dame de l'Atlas existait déjà. Et il faisait déjà fonction de dispensaire pour la population locale. Donc, il était relativement bien intégré et accepté par les populations algériennes. Néanmoins, donc, la FLN vient et demande à la communauté de lui donner des frères en otage. ils espèrent faire un échange avec un religieux musulman qui a été enlevé par l'armée française. Donc ils essayent de faire, voilà, de prendre des otages pour les négocier, pour les échanger. C'est une situation un peu particulière, mais oui, il se trouve que le hasard fait que c'est le même frère Luc qui plus tard connaîtra un sort moins heureux à la fin, puisque là il est relâché assez rapidement et il connaît une captivité un peu particulière, puisque justement il n'est pas, voilà, il est considéré comme étant juste là en attendant que l'imam soit libéré, ce qui n'arrivera pas d'ailleurs, mais il sera quand même libéré.
Alors on se demande évidemment comment les maquisards qui doivent en permanence changer de village et qui justement se cachent dans les villages, dans les djebels, gèrent leurs prisonniers. Alors ils les trimballent avec eux, comment ça se passe ?
En fait c'est ça, c'est quand on dit prisonniers, on imagine des prisons, on imagine des camps. En Algérie, il n'y a jamais de camps. La LN n'aura jamais les moyens de garder ses prisonniers dans un endroit où ils seraient plus ou moins en sécurité, etc. Donc elle est obligée de les trimballer tout le temps avec elle. Donc c'est aussi ce qui m'a intéressée dans cette histoire, c'est que par les prisonniers, j'avais un peu accès à la réalité de la vie au maquis, qui est une chose sur laquelle j'aimerais pouvoir un jour travailler, mais qui est tellement difficile à documenter. Donc par ces prisonniers qui avaient partagé la vie des maquisards, j'ai pu l'éclairer. Et s'ils ont partagé la vie des maquisards, c'est effectivement parce que ces maquisards étaient un peu encombrés de leur présence. Et de fait, leur taux de mortalité est très important, parce que vivant la vie des maquisards, et bien évidemment, ils étaient exposés aux mêmes dangers qu'eux, et donc à la force et à la puissance de l'armée française, qui donc explique leur très fort taux de mortalité.
Est-ce qu'ils se débarrassaient des blessés, par exemple ?
Est-ce que l'ALN se débarrassait des prisonniers blessés ? Non. L'ALN, dans ce que j'ai pu voir, il y a toutes sortes de cas, mais quand on peut soigner un prisonnier, on le soigne. C'est-à-dire que la décision de garder quelqu'un en vie ou de le tuer est prise au moment de la capture. Au moment de la capture, il y a des chefs qui font des prisonniers et d'autres qui liquident tout le monde. Mais dès lors qu'on a pris la décision de faire des prisonniers, eh bien on va les maintenir en vie un maximum jusqu'à ce qu'une décision, pour des raisons diverses, fasse changer les choses, mais certainement pas une blessure. Non, les prisonniers témoignent plutôt du fait qu'ils ont été soignés avec les moyens du bord, c'est-à-dire quasiment rien.
Alors on peut se demander aussi si les femmes participent à la capture et donc à la surveillance des prisonniers, puisque vous avez cette photo incroyable en couverture de votre livre. On voit donc un captif français en joue, arme au poing, par une villageoise, par une femme, donc dans le djebel.
Oui.
Alors mise en scène, réalité.
Oui, je pense que c'est mise en scène, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une photo que je trouve absolument magnifique, que j'ai trouvée grâce à Marie Chaumineau dans les archives d'un photographe algérien. Enfin, c'est toute une bande de négatifs où on voit l'ensemble de la scène. Donc oui, on peut vraiment parler de scène. C'est posé. Il me semble même que la barre qui est au sol est une barre pour limiter, enfin pour de champ que le photographe a dû mettre. Je n'ai jamais croisé de femme armée en Algérie. Donc là, on voit une femme qui tient un fusil. C'est certainement pas le sien. Mais en revanche, la symbolique qu'il y a derrière, elle est évidemment très claire. C'est-à-dire que voilà, ces hommes prisonniers sont à la merci, et notamment des femmes, c'est-à-dire vraiment doublement à la merci et complètement dominées. En revanche, on croise bien des femmes dans cette histoire de prisonniers, des femmes algériennes qui les nourrissent, comme elles nourrissent les maquisards, par exemple, mais pas qui les tiennent en joue, à part pour les photos.
Et alors le FLN fait enregistrer aux prisonniers des messages en direction de leur famille.
Rue du Paradis à Sarajevo, prisonnier de l'armée de libération nationale, depuis le 26 février 1958. Puisque j'ai l'occasion de vous parler un peu de vive voix, j'en profite pour vous rassurer un peu, que je suis bien à l'envie et en bonne santé. Je donne un grand bonjour à toute ma famille, à mes parents, Madame et Monsieur Fournier-André de Chaligny, en Meurthe-et-Moselle, à mes frères et à mes sœurs, et à toi, mon vieux Albert Lyot, que je n'oublie pas. Vous m'entendez, François et Cathy, c'est votre papa qui vous parle. Restez bien sage avec ce moment. Je reviendrai bien vite. Ne vous tourmentez pas dans mon sujet. Ici, nous sommes en sécurité. La nourriture est bonne et le tabac ne manque pas. C'est le principal. J'espère que vous êtes en bonne santé, ainsi de tous. J'embrasse bien fort ma femme, mes enfants et toute ma famille. Je vous quitte en espérant recevoir bientôt de bonnes nouvelles. En quoi ?
Il s'appelle François Fournier, prisonnier du FLN, dans un message à sa famille. Raphaël Branche, pour quelle raison le FLN fait des prisonniers ? Pourquoi faire ?
Alors, il fait des prisonniers en lien avec cette archive, on le comprend bien, pour faire comme s'il était un belligérant comme les autres. Quand on fait la guerre, on fait des prisonniers, en tout cas quand on respecte le droit de la guerre. Et donc ce que le FLN veut montrer, c'est qu'il respecte le droit de la guerre, et par ailleurs que la France ne le respecte pas. Donc ça lui sert d'abord à ça, et faire enregistrer des messages radio, celui-ci en fait est un cas unique, enfin je n'en connais que deux moments où le FLN est allé jusqu'à faire enregistrer un message radio, ça fait partie des pratiques ordinaires de la captivité de guerre quand on respecte le statut des prisonniers de guerre. Donc on fait des prisonniers tout simplement déjà pour dire qu'on en fait.
Et pour dire qu'on est donc une armée régulière.
Qu'on est un belligérant légitime et donc une armée régulière effectivement.
Quel est votre nom, s'il vous plaît ?
Coulot-Jean.
Dans quelles conditions avez-vous été fait prisonnier ?
J'ai été fait prisonnier le 16 janvier 1958.
Dans quelles conditions ? Comment ça se passe ?
Un accrochage.
Ouais. Mais vous avez connu les autres qui ont été libérés il y a à peu près un mois et demi, au mois de décembre ?
Bah, ils ont été pris en même temps que moi.
En même temps que vous. Ouais. Et vous avez eu des nouvelles d'eux ? Vous saviez où ils étaient ?
Bah, ils étaient avec nous.
Ils étaient avec vous. Avec nous. Alors, comment ça s'est passé ? Vous avez été emmené dans la montagne ?
Oui, dans la montagne, après dans les bois. Puis alors, on a marché. Puis
vous marchez tout le temps ou bien est-ce que vous avez...
On a marché pendant X jours, je ne me rappelle plus, mais on avait un camp fixe mais pour savoir où.
Oui, et quand est-ce que vous déplaciez ? La nuit, le jour ?
On se déplaçait la nuit.
La nuit surtout, oui.
Document extraordinaire, donc libération d'un prisonnier du FLN. Nous sommes avec Raphaël Branche, donc qui vient d'éditer ce livre « Prisonnier du FLN ». Qu'est-ce que ça donc rapporte au FLN de mettre en scène, par exemple, une libération de prisonniers ? Évidemment, la presse est là. Quel est l'intérêt pour le FLN ? En quoi c'est efficace de libérer justement un prisonnier ?
Et c'est-à-dire qu'encore plus efficacement que de faire des prisonniers, avoir réussi à les maintenir en vie, ce qui est très difficile pour le FLN en réalité, les libérer, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que ça rend compte de la magnanimité du FLN, alors que la France est accusée de tous les maux. Et en plus, les prisonniers vont dire que globalement, ils ont été bien traités.
On l'a entendu, oui.
Donc voilà, donc le FLN va essayer de profiter quand il le pourra en fait à très rares moments parce qu'en fait il a très peu de prisonniers en bonne santé qu'il peut libérer, parce que pour pouvoir les libérer, il faut que les prisonniers se trouvent à l'extérieur de l'Algérie, parce que à l'intérieur de l'Algérie, l'armée française domine. Donc il faut que ce soit à l'extérieur de l'Algérie. Or, pour passer les frontières tunisiennes et marocaines, c'est extrêmement difficile, puisque là aussi, l'armée française est bien installée. Donc très très peu de prisonniers vont réussir à être exfiltrés. Quand ils auront été exfiltrés, en tout cas au Maroc, c'est le cas de Jean Coulos qu'on vient d'entendre là, ils seront libérés au compte-gouttes, avec toute une mise en scène, bien sûr.
De quelle façon, d'après justement votre enquête historique, ces prisonniers qui n'ont pas le statut de prisonniers et leurs familles ont-ils vécu ces traumatismes ?
Alors, vous dites que c'est un traumatisme, oui, certainement. C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que moi, je les ai rencontrés entre maintenant et il y a 5 ans. C'est-à-dire que beaucoup de temps s'est passé et qu'il est difficile d'estimer ce qui est dû à leur capture et ce qui est dû au sentiment de non-reconnaissance qu'ils ont. Ils ont beaucoup souffert de ne pas exister aux yeux de l'État français. Voilà. En tant que prisonnier militaire, là, je parle. Je pense que pour les civils, c'est peut-être un peu différent. Donc, difficile de savoir ce qui est dû à la capture elle-même ou au déni dont ils s'estiment pour la plupart victimes, même s'ils ne l'explicitent pas toujours.
Au point que certains ont été déclarés morts alors qu'ils écrivaient encore des lettres à leur famille. Ça, vous l'avez montré dans votre livre.
Mais l'armée française, à ma grande surprise, ne se prépare pas du tout au fait que certains de ces hommes tombent dans les mains de son ennemi. Elle sort de l'Indochine où des Français ont été faits prisonniers en pagaille et vraiment elle n'estime pas de la même manière son ennemi, très clairement. Hein. Et donc à aucun moment les soldats sont préparés à cette éventualité, d'une part, et à aucun moment l'institution, l'autorité militaire ne s'est préparée aussi. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, elle ne les recense pas particulièrement, elle les recherche mais pas forcément beaucoup. Enfin voilà, il y a une espèce de flottement qui dure quelques années au début de la guerre et effectivement il y a un certain nombre de couacs où les familles sont averties que leur proche a disparu sans qu'on sache ce qu'il est advenu de lui, mais il est considéré comme mort alors qu'en fait il est prisonnier, ou inversement il est considéré comme déserteur alors qu'en fait il est prisonnier. Comme ça j'ai retrouvé beaucoup de flottements, et pour ce qui est de ceux qui ont été considérés comme déserteurs, quand ils ont été libérés, il a fallu qu'ils fassent la preuve du fait qu'ils avaient été faits prisonniers et qu'ils n'avaient pas déserté, ce qui n'était pas forcément très évident à faire.
Et je comprends d'autant mieux toutes les précautions que vous prenez au début de votre livre à l'égard justement de ces prisonniers et de leurs familles. Merci beaucoup Raphaël Branche et merci également à Jeanne Monjoulet qui nous a prêté donc ces deux extraits sonores exceptionnels sur les prisonniers du FLN. Les autres archives sonores étaient de Lina. Votre livre, c'est aux éditions Payot, ça s'appelle « Prisonniers du FLN ». Ainsi se termine donc « La marche du monde » enregistrée à Blois, réalisée par Cécile Pompeani et Manu Pochèze, accueillie au café Fluxus. N'hésitez pas à nous retrouver sur RFI.fr. Vous pouvez podcaster cette émission, vous pouvez réagir sur la page Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.